أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Parmi les noms que possède Dieu, il y a le nom Al-Hadi. Et selon le dictionnaire arabe, Lisanul Arab, il est dit que Al-Hadi signifie celui qui guide son serviteur et qui lui accorde la connaissance afin qu'il reconnaisse sa rububia. Comment Allah guide sur cette voie? Quelle est la situation lorsqu'Allah guide les gens? Allah guide les gens et leur montre sa voie lorsque les hommes rejettent la rububia de Dieu. Ce rejet prend plusieurs formes. Dans certains cas, les gens peuvent prendre un homme pour en faire Dieu, tout comme les chrétiens l'ont fait en ce qui concerne Jésus-Christ. Des fois, l'homme lui-même, en raison de sa puissance et en raison de son hégémonie, se pose en Dieu, tout comme cela s'est passé dans l'époque des prophètes du passé, tout comme à l'époque de Pharaon. Et dans d'autres cas, certains se posent en Dieu, ou certains disent être la personnification même de Dieu sur terre. Et ces gens demandent aux hommes de prosterner devant leur tombe. Ou cela peut concerner les superpuissances qui croient que leur force est éternelle. Et de ce fait, ces superpuissances se posent en Dieu. Donc, en ce monde, on trouve des troubles et cela donne naissance à une litanie sans fin de troubles et de désordres. Et c'est en ce moment-là que Dieu montre sa puissance. Et c'est là qu'il prouve qu'il est le Rabbul Alamin. Le Messie premier al-Salam déclare à ce propos que Dieu déclare qu'il est le Rabbul Alamin, c'est-à-dire qu'il est le créateur de toutes choses et tout ce qui existe aux cieux comme sur la terre vient de sa part. Et ceux qui sont guidés et ceux qui sont les transgresseurs, toutes ces personnes font partie de l'Alamin.
اعتدال کو ترک کرنے کا عالم
L'égarement, l'incroyance, l'iniquité et l'injustice augmentent à tel point que la terre tout entière se recouvre des ténèbres et les gens abandonnent la voie de Dieu. Ils ne reconnaissent pas le statut de leurs semblables et ils ne respectent pas non plus le statut de Dieu. Donc, les gens ne connaissent plus le statut des hommes et ils ne connaissent plus non plus le statut de Dieu. Le Messie premier l'Islam ajoute que le monde se trouve sous les ténèbres et la foi disparaît complètement sous ses troubles. Et c'est là que Dieu Ar-Rahman envoie un imam de sa part afin qu'il puisse se battre contre les légions de Satan. Et ces deux groupes continuent à se battre, et seuls ceux qui possèdent deux yeux peuvent voir cela. Et en fin de compte, les perfides sont subjugués, et les arguments erronés des perfides disparaissent. Cet imam a toujours la suprématie sur ses ennemis, et il soutient tout le temps le groupe de ceux qui sont guidés. Voilà donc comment Allah guide les hommes. Et pour cela, il fait entrer en action l'attribut de la Raboubia. Mais tout comme l'a déclaré le Messie premier, l'Islam, l'ennemi voit ses signes. Et Dieu accorde son soutien à ceux qui ont été guidés par lui. Et Dieu arrête la force des fauteurs de troubles. Au contraire, il les pousse à reculer. Voyez un peu l'époque du Messie premier l'Islam. Voyez où se trouvait le christianisme. Le christianisme avait du succès partout dans le monde et même les musulmans de l'Inde étaient en train d'embrasser le christianisme en grand nombre. Et les missionnaires voyaient le rêve de la conquête de l'Inde par le christianisme. Non seulement que le Messie premier l'Islam a arrêté leur progrès en Inde, mais il les a forcés de reculer. Même en Afrique, qui était entre les mains des missionnaires chrétiens à l'époque, même en Afrique, ces mêmes missionnaires ont dû déclarer que non seulement l'Ahmadiyya a arrêté notre progrès, mais l'Ahmadiyya nous a fait reculer. Voilà donc comment Allah accorde son soutien, voilà comment il manifeste sa raboubia. Et il manifeste sa raboubia en envoyant son imam. Mais tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, seuls ceux qui ont deux yeux peuvent voir cela. Ceux qui acceptent l'imam de l'époque sont ceux qui ne se contentent pas de voir les choses matérielles de ce bas monde. Au contraire, ils ont une grande douleur pour la foi. Ils possèdent cet œil pour voir la foi. Il y a ces grands oulémas musulmans qui se disent être de grands érudits et qui ont soulevé des objections contre le Messie premier l'Islam en s'aveuglant de leurs connaissances qu'ils ont acquises. Et cette connaissance est en train de les mener dans la mauvaise direction, et eux-mêmes, ils sont en train d'égarer les musulmans en raison de cette connaissance. alors que ces ulémas de l'époque acceptent aussi un autre fait que j'ai mentionné dans un de mes précédents sermons. Ils acceptent notamment que les musulmans avaient touché le fond et étaient complètement corrompus, et que parmi les musulmans, seul le nom de la religion subsistait. Et ils insistaient aussi sur le besoin du califat. Mais ils rejetaient dans le même souffle la première étape du califat. Et avant l'établissement du califat, il doit y avoir l'avènement du Messie et du Mahdi. Mais ils ont jusqu'à présent ce même point de vue, à savoir que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel et qu'il descendra du ciel et qu'il sera accompagné du Mahdi pour répandre la foi dans le monde. Il déforme l'essence des hadiths et présente ce point de vue. Quel que soit leur point de vue, tant qu'ils n'acceptent pas la Naboua, il n'y aura pas de califat. Et conséquemment, ils vont se contenter de mentionner leurs doléances de temps en temps dans les éditoriaux des journaux. Et les oulémas vont aussi citer ces faits dans leurs discours. À savoir que Dieu a promis qu'il va envoyer le Messie et le Mahdi dans la communauté musulmane. Et pour cela, Dieu nous a enseigné une prière. Mais si les gens ne l'acceptent pas, ce Messie et ce Mahdi, et s'ils continuent à prier, que peut-on faire davantage? Dieu a déclaré que « Priez avec sincérité et je vais exaucer vos prières ». À ce propos, le Messie premier alayhi salam déclare que la Nubuwa, le prophétat du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ne manque rien des bénédictions des périodes précédentes. Au contraire, il en possède même de plus grandes. Le suivre, c'est prendre la meilleure voie pour arriver jusqu'à Dieu, et ses disciples reçoivent dans une mesure plus grande que ceux des premiers prophètes les bienfaits qui découlent de l'amour de Dieu et de la sainte communion. Cette communion divine est connue sous le titre de Nabuwa lorsqu'elle atteint la perfection, tant en termes de qualité que de quantité, lorsqu'elle ne souffre d'aucune lacune et lorsqu'elle révèle de façon indéniable les secrets de l'invisible. Lorsque cette communion atteint son apogée, lorsqu'il n'y a plus de lacune dans cette communion avec Dieu est qualifiée de Nabuwa. Lorsque cette communion révèle des choses de l'invisible, cette communion a le titre de Nabuwa. Donc, le Messie premier alayhi salam déclare que cette communion est qualifiée de Nabuwa. Le fait que Dieu parle avec son serviteur, le fait qu'il informe des choses de l'invisible, lorsque cette communion atteint son apogée, on qualifie cette communion de Nabuwa, et tous les prophètes de Dieu y sont unanimes. Il n'est pas possible que toute une communauté dont il a été dit « Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas » et à laquelle on a enseigné cette prière. Dans ce précédent verset, il est dit que vous êtes la meilleure des oumams. Et ensuite, on leur a enseigné cette prière « Ehdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim ». Il est impossible que tous les membres de cette communauté soient dépourvus de cette grande bénédiction et que pas un seul de ces membres n'ait pu atteindre le stade de l'apostolat. S'il en fut ainsi, non seulement la Ummah Muhammadiyah serait imparfaite, Mais les disciples du saint prophète, paix soit sur lui, seraient spirituellement aveugles. Mais on aura à admettre que la force purificatrice du saint prophète était elle-même défectueuse. De surcroît, la prière citée plus haut et que l'on doit répéter dans les cinq solas quotidiennes se serait révélée inefficace. Ici, le Messie premier des salams nous explique que vous avez été qualifié de la meilleure des oumans et Dieu vous a aussi enseigné cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim pour que vous soyez dans la bonne direction et que vous puissiez profiter des faveurs des autres. Et quelles sont ces faveurs? C'est la Nabouwa, c'est le statut de siddique, de shahid et de salih. Il nous explique donc que d'une part, Dieu nous a enseigné cette prière et a déclaré que vous êtes la meilleure des oummas, mais selon vous, il n'y a personne de la oumma du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui ait pu atteindre le statut de la Nabouwa. À personne Dieu n'a accordé ses connaissances de l'invisible. Et apparemment, cette prière « Ihdina Sirat al-Mustaqim » que nous répétons dans nos cinq prières quotidiennes à plusieurs reprises est là où il se trouve les musulmans qui prient, répètent cette supplication dans leurs prières quotidiennes. Mais en dépit de toutes ces supplications, selon ces autres musulmans, Dieu n'a pas exaucé cette prière. Le musulman Maoud radiallahu anhu a déclaré que j'ai demandé à plusieurs personnes de faire cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim. J'ai demandé à des musulmans de prier en ces termes, afin qu'Allah les guide dans la bonne direction. Et conséquemment, Dieu a guidé ces gens dans la bonne direction. Donc on doit se départir de son égocentrisme, on doit se débarrasser de son carcan, on doit se débarrasser de ses parti pris et sans préjugés à l'égard du Messie premier alayhi salam, on doit prier pour être guidé. Et c'est là qu'Allah va vous guider. Ce sera une allégation à l'encontre de Dieu que d'une part, il déclare que « Priez, implorez-moi et je vais exaucer vos prières » tout comme il a déclaré « Wa qala rabbukum » à savoir que votre Seigneur a déclaré « Priez, implorez-moi et je vais exaucer vos prières. » Nous disons que nous prions pour nos affaires quotidiennes et que nos prières ont été exaucées par Dieu. Mais l'homme qui prie pour son salut spirituel et des prières qui lui ont été enseignées par Dieu, ces prières ne sont-elles pas acceptées par Dieu? D'une part, il déclare que prier pour être guidé dans la bonne direction. Et nous savons que la foi a besoin d'un guide aujourd'hui. Et les hommes désirent ardemment la venue d'un guide, tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam. Ici, on est en train de rappeler à Dieu sa promesse. Et on lui demande de nous envoyer un guide. Et Dieu déclare lui-même que les autres prières seront exaucées, mais cette prière ne sera pas exaucée. Donc, ce sera là une allégation à l'encontre de la personne de Dieu. Allah va déclarer que, certes, vous êtes la meilleure des oummas, mais votre état peut s'empirer davantage. Vous êtes la khairu ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des oummas, mais votre état peut s'empirer davantage. Cela ne fait rien. Cela peut s'empirer davantage à tel point que votre foi et votre religion peut-être un lambeau, mais moi, je ne vais pas accepter cette prière. Je ne vais pas envoyer de guide pour vous mener dans la bonne direction. Il est impossible qu'Allah dise que vous pouvez prier, vous pouvez user vos fronts en vous prosternant devant moi, mais moi je ne vais pas vous guider. Je vous ai déjà envoyé ma direction, maintenant je ne vais plus vous guider. » Dieu ne peut déclarer une telle chose. Mais en tout cas, le Messie premier l'Islam a dit à ce propos que vous pouvez prier ardemment, vous pouvez user vos nez dans vos prosternations, vous pouvez prier, vous et vos descendants, et mourir en priant. Vos descendants peuvent prier pour qu'Allah envoie un guide autre que moi, le Messie le Mahdi. Vous pouvez prier autant que vous le voulez, mais Dieu n'enverra pas d'autres Messie et d'autres Mahdi que moi. Celui qui devait venir est déjà là, présent. Maintenant, sans l'accepter, il n'y aura pas d'issue. Donc, les musulmans doivent réfléchir sur leur situation et au lieu de commettre des exactions contre les Ahmadis, ils doivent prier en toute sincérité pour être guidés de la bonne direction. Quotidiennement, on est en train de commettre de nouvelles exactions contre les Ahmadis. Ils cherchent des nouveaux moyens pour nuire aux Ahmadis et ils pensent que peut-être, grâce à leur tourment, ils vont pousser certains Ahmadis à abandonner leur foi. Et ils ne peuvent pas, en tout cas, faire disparaître l'Ahmadiyya. Ils ont maintenant trouvé de nouvelles stratégies en faisant arrêter des jeunes Ahmadis ou des enfants. Ils ont fait arrêter des jeunes de 16 et 17 ans en disant que, na'udzubillah, ces enfants ont écrit le nom du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans les toilettes, et ils ont là commis un outrage à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens qui font pareille allégation sont aveugles spirituellement et ils font de telles accusations à l'encontre des Ahmadis. Seules de telles personnes peuvent commettre de telles exactions. Des gens qui sont aveugles spirituellement, des gens qui ne connaissent pas le statut véritable du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ici, cela ne concerne pas des adolescents, mais même de petits enfants Ahmadis ne vont même pas commettre une telle action. Le Messie et le Mahdi qui est venu nous a guidés vers l'amour du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et nous a enseigné de telles choses que ces gens ne peuvent même pas imaginer. En tout cas, qu'Allah éclaire les autres musulmans qui habitent dans d'autres régions du monde. Qu'Allah les éclaire afin qu'ils ne commettent plus d'exactions contre les Ahmadis et qu'ils cherchent à être guidés par Dieu et qu'ils se prosternent devant Dieu. Je dois présenter une autre explication ici. Quelques jours auparavant, il y avait une session de formation pour les dames et quelqu'une a posé la question que certains Ahmadis disent que si vous n'acceptez pas Mirza Saheb comme prophète, nous allons l'accepter. En premier lieu, c'est un malentendu de la part de ces Ahmadis naïfs qui croient en leurs paroles, à savoir qu'ils vont accepter Mirza Ghulam Ahmad Saheb. Peut-être qu'ils vont cesser leur opposition, mais en tout cas, ils n'auront pas le courage de l'accepter. Mais en fait, le Messie premier l'Islam est Nabi selon la définition qu'il a donnée dans ses écrits. Il s'est dit Nabi selon la définition qu'il a présentée lui-même dans différents endroits. Il a déclaré que lorsqu'Allah parle avec son serviteur, lorsqu'il s'adresse avec lui, lorsqu'il l'informe des choses de l'invisible, selon le Messie premier l'Islam, l'on qualifie cette communion de Nubuwa. Et voilà ce que nous a expliqué tous les prophètes d'antan. Si l'on rejette le fait que le Messie premier l'Islam est un prophète, l'on va aussi dire après que le Messie premier l'Islam ne recevait pas de révélation. Ensuite, l'on va devoir rejeter d'autres points, car lorsqu'on s'écarte de l'essentiel, l'on commence à flancher et on s'affaiblit dans sa foi. Afin d'augmenter notre nombre, allons-nous présenter un nouveau Messie et un nouveau Mahdi? Allons-nous nous détourner des prophéties de Dieu et de son Mahdi pour présenter un nouveau Messie et un nouveau Mahdi? Si, comme le disent les gens ici, comme au Pakistan, que l'on doit mettre fin à la naboua du Messie premier l'Islam, l'on va devoir aussi rejeter le fait que le Messie promis à l'Islam n'est pas le Messie et le Mahdi. Car selon un hadith du saint prophète Mohammed, peace soit lui, il a été rapporté qu'il a dit que « Sachez qu'il n'y a pas de prophète entre moi et Isa ibn Maryam, qu'il n'y a pas de prophète entre moi et le Messie promis à l'Islam. » Lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort et qu'il ne viendra plus, et qu'un autre Messie naîtra dans la Jamaat du saint prophète Mohammed, peace soit lui, il est évident que ce Messie sera un Nabiullah, un prophète de Dieu, tout comme il a été expliqué à la lumière de ce hadith, où l'on va devoir dire que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel et qu'il descendra du ciel. Donc, si l'on rejette la naboua du Messie premier l'Islam, l'on va devoir accepter qu'un temps viendra lorsque Jésus descendra du ciel et il sera un Nabi. Donc, on va devoir accepter les déclarations des autres musulmans que Jésus-Christ est toujours vivant. Et on va devoir rejeter les autres déclarations du Messie promis à l'Islam. Selon le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce Messie qui allait venir aura le titre de Nabi, de prophète. Les Ahmadis qui méconnaissent ces choses-là doivent comprendre que s'ils rejettent un point, ils vont devoir rejeter d'autres déclarations du Messie premier l'Islam. On va devoir cesser de dire qu'il est le Messie et le Mahdi, et comme les autres musulmans, l'on va devoir accepter que Jésus est toujours vivant au ciel, et qu'un jour il descendra du ciel. Alors qu'à la lumière des hadiths, la période de sa venue s'est écoulée. Donc, sans crainte et sans aucune complexe d'infériorité, vous devez leur informer du statut véritable du Messie promis à l'Islam. Informez-leur du statut présenté par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui lui-même. Car à propos des Ahmadis, il a été dit qu'ils vont fermer la bouche des autres grâce à leurs paroles de vérité. Donc pourquoi s'inquiéter? Le Messie premier l'Islam nous explique que la Sourate al-Fatiha et déclare que le sixième point est Ehdina Surat al-Mustaqim, c'est-à-dire qu'au sixième millénaire, il régnera sur terre les ténèbres, des ténèbres qui exigeront la venue de la direction, c'est-à-dire la venue du Messie promis. Donc, ce sixième millénaire concerne la période du Messie premier l'Islam, une période qui va exiger la venue du Hadi, du guide. Celui qui a été soutenu par Dieu, mais ces gens ne veulent pas l'accepter. À la lumière de ces écrits du Messie promis l'Islam, l'on constate que les gens de bonne nature vont implorer la venue d'un guide. Mais l'on constate ici que la plupart de ces gens ne sont pas des gens de bonne nature. Puisque bon nombre d'entre eux ne sont pas de bonne nature, puisqu'ils ne veulent pas accepter cette vérité, alors afin de leur faire plaisir, allons-nous, nous qui avons accepté le Messie premier l'Islam, rejeter ces déclarations? Le Messie premier, l'Islam, dans son sermon, la Khutba al-Ramia, il déclare que je jure par Dieu, le Saint-Coran est le juge de tous les différents, et jamais il est dit que le Khatam al-Khulafa viendra de la lignée mosaïque. Ne poursuivez pas cette voie car vous n'avez pas de preuves en ce sens. Au contraire, les preuves vous ont été présentées. Et ne sortez pas des paroles erronées de vos bouches, car ces paroles sont à l'exemple de cette flèche qui est tirée dans l'obscurité. Cette promesse est une vraie promesse et personne ne pourra vous tromper. Et on trouve cette indication de la sourate Al-Fatiha. Et ce verset, Salat al-Adina Anamta alayhim, est une prière que vous faites. Mais vous cherchez des prétextes et vous vous concertez afin de rejeter les preuves divines. Pourquoi foulez-vous des pieds les commandements divins? N'allez-vous pas mourir? Ne serez-vous pas questionné? Voilà donc des déclarations qui concernent les non-Ahmadis. Dans son ouvrage, Kishinou, c'est-à-dire à l'arche de Noé, le Messie premier l'Islam nous explique cette prière « Ehdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim ». Il déclare que ici l'on trouve une promesse de la venue d'un Messie dans la lignée du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il déclare « Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a pas voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. Dieu, le Tout-Puissant, lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour de la résurrection les bienfaits de sa loi et de sa spiritualité. Et c'est grâce à ses bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en suscitant le Messie promis dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice de l'islam. Il est d'importance capitale qu'avant la fin des temps, un Messie spirituel soit suscité parmi les musulmans, semblable à celui qui le fut dans la lignée de Moïse. Tel que le laissent comprendre les versets du Saint-Coran « Ehdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim ». Donc, voilà la supériorité du Saint-Coran de l'islam et du Saint-Prophète Mohammed, peace celui sur la supériorité des autres religions, à savoir que jusqu'au jour de la résurrection va perpétuer la grâce spirituelle du Saint-Prophète Mohammed, peace celui. Et le Messie promis viendra de la communauté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le Mahdi viendra de cette Ummah. Ces deux titres sont les noms d'une même personne. Donc, sans accepter le Messie et le Mahdi comme prophète, il n'y aura pas d'autre issue. À propos de cette prière « Ehdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim », le Messie promis alayhi salam indique que vous devez accepter ce Messie. Il déclare dans son ouvrage Zajratul Imam que dans le Saint-Coran, il est prescrit que l'on doit suivre un dirigeant, un souverain, afin que règne l'ordre dans le monde matériel. Mais cet ordre s'applique aussi au monde spirituel. Voilà ce qu'indique la prière Ehdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina Anamta alayhim. Tout comme il y a un système en ce bas monde et que l'on doit suivre un leader, un roi, un souverain, de même dans le monde spirituel, il y a un système. Et pour cela, Pour faire tourner ce système spirituel, on nous a enseigné cette prière « Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ». On doit comprendre qu'aucune personne, aucune créature n'est privée des grâces divines. Mais cet ordre ne s'applique pas à toutes ces créatures qui ont profité de ces faveurs. Ce verset signifie donc « Accorde-nous les moyens de suivre ces gens sur qui tu as fait pleuvoir ces faveurs parfaites. » Cette prière ne signifie pas que l'on doit prier pour qu'Allah nous donne la possibilité de suivre les animaux ou les autres créatures à qui Dieu a accordé ses faveurs. Ici, on est en train de demander à Dieu de nous guider sur la voie de ces gens qui ont reçu ces faveurs parfaites. On demande à Dieu, donne-nous la possibilité de suivre leur voie. Donc, voilà l'indication qui a été donnée ici, à savoir que vous devez vous lier avec l'imam de l'époque. Ce terme, l'imam de l'époque, doit vous pousser à réfléchir. Ce terme renferme l'essence de Nabi Rasoul Muhaddath Mujaddid. Mais quant à ceux qui n'ont pas été choisis pour guider les hommes, c'est-à-dire quant à ceux qui n'ont pas été choisis par Dieu pour mener les gens dans la bonne direction, quant à ceux qui n'ont pas recevoir les faveurs parfaites, ces personnes peuvent être qualifiées de saints ou de pieux, mais ces personnes ne peuvent être qualifiées des imams ou zaman. Ce titre imam ou zaman est accordé par Dieu lui-même. Ici, le Messie premier salam nous fait comprendre que l'on peut jouir du titre de Wali ou d'Abdal, on peut se rapprocher de Dieu, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'on est un imam. L'imam qui est évoqué ici est cet imam envoyé par Dieu lui-même, un imam qui a reçu ce statut de la part de Dieu. Et l'imam de notre époque est l'imam qui a été envoyé comme le Messie et le Mahdi. Et il n'a pas été dit qu'il s'est contenté de faire de telles déclarations. Il a été soutenu par des signes de la part de Dieu. Cette prière, Ihdina as-sirata al-mustaqim, n'est pas une prière uniquement pour guider les musulmans, mais les autres, les juifs, les musulmans, les chrétiens, peuvent faire cette prière s'ils sont sincères, tout comme l'a déclaré le Muslim Aoud, que certains non-musulmans ont fait cette prière suite à mes conseils. Cette prière ne concerne pas uniquement les musulmans, donc toute personne peut faire cette prière, quelle que soit sa religion. Donc, si des non-musulmans ont été guidés grâce à ces prières, tout comme l'a déclaré le Muslim Aoud, si ces personnes ont été guidées par Dieu et que ces personnes ont vu des rêves pour être guidées, donc, si Dieu peut guider les non-musulmans, pourquoi ne peut-il pas guider les musulmans? La seule raison est que les intentions de ces musulmans ne sont pas bonnes. Il y a de grands musulmans qui apparemment prient 5 fois par jour, mais ces musulmans sont dénués de toute direction. Donc, afin d'être guidé par Dieu, on doit avoir un cœur sincère et on doit marcher dans la direction de Dieu. Tout comme Allah le déclare, « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ». Quant à ceux qui font des efforts pour venir dans la direction, certainement, nous allons les guider vers nous. Quelques jours auparavant, au cours d'une émission retransmise sur la MTA, il y avait l'imam Saeb, M. Momin Saeb et Asif Basit Saeb qui parlaient à propos de la persécution. Et un alim Non Ahmadi, qui habite aux USA, a vu cette émission et a téléphoné à la MTA et a déclaré que j'ai regardé cette émission et vous avez cité à tort certains hadiths et je veux rectifier cela. Et on a envoyé notre représentant qui a enregistré tout ce qu'il avait à dire. En tout cas, il a été animé par l'animosité contre l'Ahmadiyya. Et on va répondre à ces questions. Mais il a dit quelque chose qui est répété généralement par les musulmans non ahmadis, à savoir que le terme Rafa par rapport à Jésus-Christ est physique et pas spirituel comme le disent les ahmadis. C'est quelque chose que répètent tous les musulmans non ahmadis. Mais il a dit quelque chose qui est nouveau pour moi. Il a déclaré que vous voulez faire mourir Hadrat Isa alayhi salam, car en cela réside la vie de l'Ahmadiyya. En tout cas, il a montré ses intentions et il a déclaré qu'il a lu attentivement les écrits de la Jamaat. Mais s'il a réfléchi profondément, il aurait dû comprendre que cela ne concerne pas la vie de l'Ahmadiyya. Mais le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela, que la vie de l'Islam réside dans la mort de Jésus-Christ. Laissez mourir Jésus-Christ, car en cela réside la vie de l'Islam. Car voilà le stratagème utilisé par les chrétiens. Voilà comment ils arrivent à convaincre les musulmans simples d'esprit qu'ils doivent accepter que Jésus-Christ est supérieur au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais c'est vrai aussi que les ulémas musulmans ne soulèvent plus cette question maintenant, mais il y a encore certains de ces ulémas, même ici en Occident, des ulémas qui acceptent encore que Jésus-Christ est vivant au ciel et qui descendra du ciel en chair et en os. Donc, nous sommes en train de prouver la mort de Jésus-Christ et nous sommes en train de présenter l'islam comme la véritable religion. Et on est en train de présenter le Messie premier à l'islam comme le reflet du Messie de Moïse. On veut par cela prouver la véracité de l'islam. Et ces gens disent que la vie de l'Ahmadiyya réside dans la mort de Jésus-Christ. En tout cas, on a prouvé que c'est grâce à la mort de Isa alayhi salam qu'on prouve que l'islam est la religion véritable, que l'islam est en vie. Mais ces gens ont aussi prouvé que eux, ils croient que c'est grâce à la mort de Jésus-Christ que vit l'Ahmadiyya. Nous disons quant à nous que tout ce que nous le faisons pour la cause de l'islam. Et que signifie l'Ahmadiyya? C'est l'islam véritable. Et ceux parmi les chrétiens qui acceptent l'islam grâce à l'Ahmadiyya, ces gens le font pour cette raison, à savoir que lorsque l'on prouve que Jésus-Christ est mort, ils n'ont pas d'autre issue que d'accepter cette vérité, et c'est là qu'ils comprennent que l'islam est une religion vivante. En tout cas, tout comme je l'ai déclaré, si cette personne prie en toute sincérité, sans parti pris, pour qu'il soit guidé dans la bonne direction, si cette personne a cette douleur, alors certainement Dieu le guidera dans la bonne direction. Si vous désirez le progrès de l'islam, alors sachez que le progrès de l'islam est maintenant lié avec le Messie, ce Messie qui est venu. Et à part cela, tous les autres efforts n'auront point de succès. Le Messie premier l'islam s'est dit être de la part de Dieu. Et par la grâce d'Allah, au cours des 120 dernières années, nous avons témoigné que cette déclaration est vraie. Il déclare « Environ 20 ans se sont écoulés depuis que j'ai reçu ce verset du Saint-Coran en révélation. « Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli » À savoir que c'est Dieu qui a envoyé son prophète avec la direction et la religion véritable, afin qu'il lui accorde la suprématie. Et on m'a fait comprendre que j'ai été envoyé afin que je puisse parfaire la religion, et afin que je puisse accorder la suprématie à l'islam. Et sachez qu'il y a en cela une grande prophétie. Et les ulémas et les chercheurs sont unanimes que cela va se faire à l'époque du Messie. Et tous les saints et les amis de Dieu qui m'ont précédé n'ont point déclaré que cette prophétie s'est réalisée en leur personne. Mais à mon époque, Dieu m'a révélé ce verset et m'a fait comprendre que ce verset s'applique à moi. Et que c'est grâce à moi, c'est grâce à cette période qui me concerne que l'islam aura sa suprématie. Et a déclaré que Dieu a envoyé son choisi et accordé deux grâces. Dieu lui a accordé cette faveur qui est la direction. Dieu lui a accordé la vision spirituelle. Dieu lui a accordé cette direction afin qu'il puisse guider les autres. Et Dieu lui a accordé ou l'a gratifié de cette connaissance de sa part. Dieu lui a accordé une connaissance gratuite qui est venue de la part de Dieu. Et Dieu a éclairé son cœur grâce aux visions, grâce aux révélations. Et ainsi, il aide son serviteur grâce à la vérité et il soutient son serviteur. Et c'est ainsi qu'il lui a accordé le titre de Mahdi. Donc ici, le Messie premier l'Islam a déclaré que tout cela découle des grâces divines et c'est pour cette raison qu'il m'a donné le titre de Mahdi. Et il est venu ensuite afin de guérir les autres grâce à la religion. Il est venu dissiper les doutes que les gens entretiennent à propos de la charia et il est venu dissiper les difficultés à ce propos. C'est pour cette raison qu'il a reçu le titre de Aïssa. Donc, dans ce verset, il y a deux termes, c'est-à-dire « bilhuda » et « dinil haq ». « Bilhuda » signifie que le Mahdi sera purifié par Dieu et que c'est Dieu qui sera son enseignement. Et le deuxième terme, « dinil haq », signifie que ce choisi sera Isa et il va venir afin de guérir les malades et il aura cette connaissance de la part de Dieu. Il viendra à la lumière de cette connaissance afin d'informer les gens de leur maladie et afin de convaincre les gens à entrer en l'islam. Il a la tâche de prouver la véridicité et la supériorité de l'islam sur toute autre religion. Et pour cela, il est primordial qu'il doit connaître les lacunes et les beautés de toutes les religions. Il doit connaître donc les qualités et les lacunes de toutes les autres religions. Et il doit être accompagné de preuves et de signes qui vont perdurer pour tous les temps. Ces preuves et ces signes doivent perdurer. Et il doit pouvoir répondre aux questions de ses adversaires. Grâce à ses arguments, il doit pouvoir répondre aux questions de ses adversaires. C'est donc là un signe qui lui a été accordé. Et il doit pouvoir informer les gens des lacunes qui se trouvent dans leur religion. Et il doit pouvoir prouver la beauté de l'islam. Et il doit pouvoir guérir ces gens des maladies spirituelles. Donc ce mousselet, ce réformateur, possède deux qualités. Tout d'abord, Ilmul Huda, et cela indique vers le titre de Mahdi, c'est-à-dire en dépit que d'être un oumi, Dieu va lui accorder cette connaissance. Le fait que Dieu va l'enseigner ces choses. Et deuxièmement, le terme Tahlim signifie que Dieu lui accordera la force afin de dissiper les maladies spirituelles des gens et qu'il viendra afin de présenter des preuves irréfutables. Et l'attribut Ilmul Huda signifie cette connaissance, cette grâce qui est octroyée à l'homme sans aucun effort de sa part. C'est un don qui vient de la part de Dieu. Et Ilmuddin signifie qu'il viendra afin de guérir les gens des maladies spirituelles. Voilà donc le statut du Messie et du Mahdi envoyé par Dieu. Ce Messie et ce Mahdi qui est venu guider les gens dans la bonne direction, qui est venu leur faire comprendre la vérité concernant l'islam, afin que les gens puissent donc comprendre l'islam. Qu'Allah donne la possibilité aux gens d'accepter ce Messie et ce Mahdi, et qu'Allah nous donne la possibilité aussi de suivre les voies de ce Hadi, de ce guide, que nous puissions agir selon ses directives et que nous soyons persévérants sur cette voie et que nous ne trébuchions jamais, et que nous puissions atteindre notre objectif. L'objectif qui va nous mener vers le plaisir de Dieu. Avant de terminer, je dois ajouter que je vais faire la prière funéraire de quelques personnes. Il y a tout d'abord Mortalema Khatun Nissa Dard Sahiba, l'épouse de Moulana Mohamed Shafi Saheb, qui est décédé à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle travaillait pour la Lajna Imaïla et son époux, qui était un missionnaire, a travaillé dans différentes régions et elle a vécu elle-même dans une grande simplicité. C'était une dame qui priait beaucoup. Elle a laissé deux fils qui ont dédié leur vie pour la cause de l'islam. Il y a tout d'abord le docteur Mohamed Ahmad Ashraf Saheb, qui est médecin à la Fazal Hospital. Et il y a aussi Mahmoud Ahmad Ashraf, qui est un enseignant à la Jamia Ahmadiyya. Elle a aussi laissé deux filles. Qu'Allah exalte son statut. Deuxièmement, il y a la prière funéraire de Mme Salima Begum Sahiba, épouse du docteur Abdulrahman Siddiq Saheb, qui est décédé à l'âge de 88 ans. Quelques mois auparavant, on a assassiné son fils, le docteur Abdulmanan Siddiqui Saheb. Elle a enduré la mort de son fils avec grande patience. Elle est décédée le 2 février. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille du docteur Ishmatullah Khan Saheb, qui était le médecin du deuxième calife. Ce médecin était avec le deuxième calife 24 heures sur 24 durant ses dernières années, durant sa dernière maladie. Cette dame avait une connaissance profonde de la religion. Elle était la sœur de l'Ajna de la région de Mirpur Khas. Et lorsque le deuxième calife a demandé à son époux de partir de cette région pour y habiter et pour y organiser la djamaat, elle a soutenu son époux et a organisé toute la djamaat. Elle n'avait qu'un seul fils, un fils unique, et c'était le docteur Abdulmanan Siddiqui Saheb qui est décédé donc quelques mois auparavant. Qu'Allah exalte donc le statut de cette dame. Troisièmement, il y a le décès de Madame Afifa Saheba, l'épouse de Sayyidi Saheb. Elle avait 65 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle avait une maladie au poumon. Elle était la fille du Maulana Abdul Wahhab Sumatri Saheb. Elle était une Moussia et elle a vécu en Indonésie et elle était la sœur de Abdul Basit Saheb, qui est l'amir et le missionnaire en charge de la Jama'at de l'Indonésie. Elle a laissé derrière deux fils et deux filles. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent suivre sa voie et qu'Allah exalte son statut. Et il y a aussi le décès de Mirza Mohammad Akram Saheb, qui est le fils de Mirza Aslam Saheb de la région de Narwal. C'est une personne qui avait plus de 40 ans. Il y a eu un vol dans son magasin et au cours de ce vol, il a reçu 13 balles. Il est décédé sur le coup, donc il est tombé en martyr. C'était une personne très brave, une personne qui travaillait pour la communauté, une personne qui possédait de belles qualités, une personne qui faisait aussi de grands sacrifices financiers. Il a servi dans différents départements de la communauté. Il était le secrétaire Rishtanata et de la Tahrik Jadid. Il a travaillé aussi pour la Khuda Mul Ahmadiyya. Il a laissé deux enfants en bas âge de 7 à 15 ans. Qu'Allah accorde la patience à ses enfants et qu'Allah exalte son statut.